Le Boréal quitta Sainte-Catherine's Docks l'après-midi du 19 juin par beau temps, plein d'espoir, à destination du pôle. Des milliers de visages anonymes étaient massés sur les docks, et tout au long de notre descente jusqu'à Woolwich, les acclamations qui nous parvenaient des deux rives faisaient comme un vrombissement ininterrompu d'abeilles. Cette expédition était en grande partie subventionnée par le gouvernement. Le Boréal était un solide navire dont la coque était beaucoup plus résistante que celle de n'importe quel bateau de guerre et qui pouvait défoncer 10 mètres de glace compacte d'un seul coup de son étrave. Les cales étaient bourrées de pemmican, d'œufs de morue, de poissons séchés, etc., de quoi subsister pendant au moins 6 ans. L'équipage se composait de 37 membres, tous triés sur le volet. Les 5 têtes, pour ainsi dire, de l'entreprise étaient Clark, notre capitaine, John Mew, le second, Aubrey Maitland, météorologiste, Wilson, électricien, et moi-même, médecin, botaniste et assistant météorologiste. Il s'agissait d'atteindre le 100e ou le 120e degré de longitude est. Une fois là, d'attraper le courant du nord et de l'utiliser pour remonter au nord. Lorsque notre bateau serait dans l'impossibilité de poursuivre sa route, nous devions le quitter, 3 ou 4 d'entre nous seulement, et nous diriger vers le pôle avec des traîneaux tirés par des chiens et des rennes. C'était le même plan que celui de la précédente expédition, celle du Nix et des autres. Mais le Boréal avait été mieux étudié que le Nix, et tout y était prévu dans les moindres détails. Notre voyage se poursuivit sans incident jusqu'à la fin de juillet. C'est alors que nous commençâmes à rencontrer quelques icebergs. Le 1er août, nous étions à Khabarova, où nous trouvâmes notre ravitailleur charbonnier. Nous fîmes du charbon en prévision d'une avarie quelconque, car notre moteur fonctionnait à l'air liquide. Nous embarquâmes aussi 43 chiens, 4 rennes et une certaine quantité de mousse à rennes. 2 jours plus tard, nous mîmes le cap nord-nord-est, côtoyant de lourdes masses de glace paresseuse, à la voile ou au moteur par temps calme. Le 27 août, nous nous amarrâmes à une banquise, au large de l'île désolée de Taïmour. La première chose que nous vîmes sur le rivage fut un ours qui guettait les poissons. Aussitôt, Clark, Mew et Lamburn, le mécanicien, débarquèrent avec la chaloupe. Nous les suivîmes, Maitland et moi, dans la prame. Nous emmenions 3 chiens dans chaque embarcation. En arrivant à terre, Maitland me dit « Clark a décidé que 3 d'entre nous, et non 2, l'accompagneraient lorsqu'il faudrait quitter le bateau pour aller au pôle. Cela fera donc 4 personnes. Moi, vous en êtes sûr ?» Maitland. Clark l'a laissé entendre à Wilson. Moi, plus on est de fous, plus on rit. Qui seront les 3 ? Maitland. Wilson en sera certainement, et Mew sera sans doute le 3e. Qui sera le 4e larron ? C'est une question d'aptitude physique, en même temps que de connaissances particulières. Vous avez eu trop de chance jusqu'à présent. Je suis prêt à parier que ce sera vous, Jeffson. Moi, est-ce si important ? L'essentiel est que l'expédition réussisse. Voilà ce qui compte. Maitland, allons donc, n'allez pas me dire que vous feriez fi de 175 millions de dollars. J'irai jusqu'à tenter la mort pour cela, si, bien entendu, j'en avais la possibilité. « Regardez, dis-je, un ours. » C'était une mère et son ourson. Elle remuait la tête en flairant le sol. Elle avait dû sentir les chiens. Nous nous séparâmes aussitôt pour aller nous dissimuler derrière des blocs de glace, à une certaine distance l'un de l'autre. Nous attendions pour la tuer qu'elle s'approche du rivage, mais elle nous épiait et vint vers moi en trottant. Je visai son cou et fis feu. Aussitôt, la bête se retourna en rugissant et courut dans la direction de Maitland. Je le vis sortir de son abri et courir une 100 mètres, puis épauler son fusil, mais rien ne se produisit. Quelques secondes plus tard, l'ours le tenait entre ses pattes tout en se débattant contre les chiens qui aboyaient, reculaient et revenaient à la charge. Maitland hurla pour m'appeler à son secours, mais moi, pauvre misérable, j'étais dans un état plus déplorable que le sien dans un certain sens. Tout mon corps était agité d'un tremblement, car les deux voix qui régissaient ma destinée jetaient le trouble dans mon cœur. L'une me demandait de me précipiter au secours de Maitland, l'autre me commandait avec insistance de ne pas bouger. J'imagine qu'il ne me fallut pas plus de quelques secondes pour me précipiter et tuer la bête d'une balle au cerveau. Et Maitland se releva, le visage en sang. Quelle singulière destinée! Quoi que je fasse, que ce soit le mal ou le bien, le résultat est le même, une sinistre tragédie. Le pauvre Maitland était condamné d'avance. J'employais pour le sauver les moyens qui devaient plus tard rendre sa mort inévitable. Je crois avoir déjà parlé d'un nommé Scotland que j'avais rencontré à Cambridge. Il parlait sans cesse de deux puissances, l'une noire, l'autre blanche, qui se disputaient la terre. Étant donné ce qui est arrivé par la suite, je crois comprendre qu'il y a une sorte de complicité entre le noir et le blanc. Comme ce fut le cas pour Adam et l'arbre de la science, si, aujourd'hui, l'homme parvient au pôle et perce son mystère, une calamité ne manquera pas de fondre sur la race humaine. Le blanc, qui est plein de bienveillance pour l'humanité, voulait l'en protéger et pensait que notre expédition devait être détruite tout entière avant d'atteindre le pôle. Le noir, qui connaissait les intentions du blanc, et les moyens qu'il comptait employer, se servit de moi, pour déjouer ce plan. Il fit donc en sorte que je fasse partie du petit groupe qui devait quitter le navire et accomplir le reste du trajet à ski. Mais les choses ne sont pas si simples, et je ris en pensant à ce pauvre Scotland et à son univers blanc et noir. Ce même jour, nous quittâmes Taillemur. À partir de là, adieu la terre et la mer libre. Jusqu'à la latitude du cap Chelyuskin, que nous ne pûmes apercevoir, ce ne fut qu'une succession d'icebergs, et Mew, dans le nid de Pie, ne cessait d'actionner sa sonnerie électrique reliée à la chambre des machines. L'ancre était parée à mouiller et Clark sondait. Nous avancions lentement, et peu à peu, la nuit polaire s'amassait autour de nous. Nous progressions à tâtons dans cette région glaciale d'un bleu sombre et scintillant. Nous n'utilisions plus nos couvertures en peau de renne et dormions dans des sacs de couchage. 8 chiens étaient morts le 25 septembre par un froid de moins 30 degrés. Par les plus sombres nuits, la lumière du nord agitait au-dessus de nous sa solennelle oriflamme qui répandait dans le ciel des millions de colifichets étincelants. Les relations entre les membres de notre petit état-major étaient excellentes, à une seule exception près. David Wilson et moi n'étions pas bons amis. Chaque fois que je repensais au témoignage qu'il avait fourni lors de l'enquête sur la mort de Peters, j'étais furieux. Lorsqu'il déclara qu'il avait entendu dire que Peters s'était administré lui-même l'atropine, ce fut d'une manière ambiguë que le coroner lui demanda « Essayeriez-vous de me cacher quelque chose, monsieur ?» Depuis ce moment, nous n'échangeâmes pas 10 paroles, bien que nous fussions toujours ensemble. Un jour que je me trouvais seul sur une banquise, je songeais méchamment « Si l'ose suspectait Clodagh d'avoir empoisonné Peters, je le tuerais. » Nous eûmes un temps splendide, jusqu'au 78e degré de latitude. Mais dans la nuit du 7 octobre, une terrible tempête s'abattit sur nous. Notre bateau roulait comme une balançoire, et les vagues submergeaient les chiens affolés. La plus grande confusion régnait à bord. La chaloupe à moteur fut arrachée de ses bossoirs. Le thermomètre descendit à 40 degrés au-dessous de zéro, tandis que, dans les hauteurs du ciel, l'aurore se fractionnait en 1000 taches de couleur, comme la palette de quelque Raphaël en folie. Tous les éléments semblaient se déchaîner, et pour la première fois, je fus malade. Après mon quart, je regagnai ma couchette sous un déluge. Je m'endormis bientôt, mais les secousses du bateau, le poids du lourd anorak dont j'étais revêtu, ma fatigue, tout cela provoqua un cauchemar effrayant. J'essayais en vain de bouger, je ne pouvais pas respirer, et mon sac de couchage m'écrasait la poitrine comme un iceberg. Je rêvais de Clodagh. Elle versait, goutte à goutte, un liquide de couleur grenat dans un verre de gruau et offrait le verre à Peters. Je savais que cette potion était un poison mortel, et dans un dernier effort pour sortir de mon sommeil, j'eus clairement conscience, en me dressant sur ma couche, d'avoir crié à voix haute « Clodagh, épargne-le !» Mes yeux s'ouvrirent définitivement. La lumière électrique brillait dans ma cabine. David Wilson était devant moi et me regardait. Wilson était un homme de forte taille, avec un visage massif allongé par une barbe. Il avait les mâchoires agitées de contractions nerveuses et son visage était parsemé de taches de rousseur. Je le revois aujourd'hui tel qu'il m'a paru, avec son air affecté, sa moue dégoûtée, son attitude sournoise et embarrassée. Que venait-il faire dans ma cabine? Et il fallait qu'il entre juste au moment où je criais. Ma couchette était une des quatre de tribord, la sienne était à bâbord. Il s'expliqua aussitôt. « Désolé d'avoir interrompu vos rêves innocents, mais le mercure est gelé dans le thermomètre de Maitland, et il m'a demandé d'aller chercher son thermomètre à alcool dans sa cabine. » Je ne répondis pas, j'avais trop de haine pour cet homme. Le lendemain, la tempête tomba, et trois ou quatre jours plus tard, la glace qui flottait entre les icebergs se prit définitivement. La route du Boréal était bloquée. Nous la marrâmes à l'aide d'ancres à glace et du cabestan en prévision de la dérive d'hiver. Nous étions à environ 79 degrés 20 minutes de latitude nord. Le soleil avait maintenant complètement disparu de notre paysage désolé. Il ne réapparaîtrait pas avant l'année suivante. Nous partions parfois en traîneau chasser l'ours sur les hauteurs. Et les mois passèrent. Un jour, Wilson, qui était de loin notre meilleur fusil, tua un morse énorme. Clark s'occupait en étudiant les crustacés. Maitland et moi étions en excellents termes, et je le secondais pendant ses observations météorologiques. Une hutte de neige, construite près du bateau, nous abritait. Parfois, une très belle lune bleue, lumineuse, spectrale, venait visiter notre sombre domaine. Quelques jours avant Noël, Clark nous annonça que, si nous continuions à dériver aussi aisément vers le nord, nous quitterions le bateau vers le milieu de mars et filerions vers le pôle en emmenant les quatre rennes, tous les chiens, quatre traîneaux, quatre kayaks et trois compagnons. Il avait décidé de partir avec Wilson, Mew et Maitland. Ce fut au dîner qu'il nous fit cette communication, et quand il eut terminé, David Wilson me regarda avec un sourire mauvais. J'étais laissé pour compte. Je m'en souviens comme si c'était hier. L'aurore boréale éclairait notre nuit. À l'horizon flottait une lune entourée d'un anneau et accompagnée de deux lunes factices. Tout cela paraissait très vague et très lointain. Le brouillard qui flottait depuis plusieurs jours empêchait de distinguer l'avant du bateau au moment où je montais sur la passerelle pour prendre mon car, 3 heures après la déclaration de Clark. Tout était parfaitement tranquille. De temps en temps, on entendait gémir un chien. J'étais seul. Mon car allait prendre fin et, en attendant que Maitland vienne me relever, le bruit de mes pas sur la dunette résonnait comme un glas, tandis que les montagnes de glace qui s'étendaient à perte de vue semblaient un linceul aussi lugubre et terrible que l'éternité. Soudain, plusieurs chiens se mirent à aboyer. Ils s'arrêtèrent, puis recommencèrent. Je me dis qu'un ours devait rôder dans les parages. Au bout d'un moment, je le vis, ou l'ai-je imaginé ? Bien que le brouillard se fût encore épaissi. Je supposai qu'il était monté à bord par les planches qui reliaient la coupée à la glace. Déjà en novembre, un ours avait flairé les chiens et s'était aventuré à bord au milieu de la nuit. Mais alors, les chiens avaient fait un beau vacarme. Je m'étonnais de leur calme à présent. Quelques-uns poussaient bien quelques gémissements, mais rien qui ressemblait à de l'affolement. Je vis la créature aller en se dissimulant de l'écoutille au chenil situé à bâbord, et je courus sans bruit chercher le fusil d'alerte continuellement chargé que l'on gardait à l'entrée du carré. La silhouette était passée devant le chenil, avait gagné l'avant et revenait vers moi par tribord. J'épaulai en me disant que je n'avais jamais vu un ours aussi énorme, compte tenu de l'effet grossissant du brouillard. Mon doigt était sur la détente. À la minute même, je me mis à trembler en entendant les deux voix me crier « Tire ! Ne tire pas ! Tire !» La dernière l'emporta. J'appuyai sur la détente. Le coup éclata à travers l'obscurité polaire. La créature s'effondra. Wilson et Clark survinrent sur ces entrefaites et nous courûmes vers l'endroit où elle était tombée. Mais il nous apparut tout de suite qu'il s'agissait d'une curieuse espèce d'ours. Quand Wilson posa la main sur la tête à la peau flasque, il sursauta. C'était Aubrey Maitland qui était sous cette peau. Je l'avais tué. Depuis quelques jours, il avait entrepris de nettoyer des peaux, en particulier celle de l'ours des griffes duquel je l'avais sauvé à Taïmur. Maitland était un comédien né et il adorait les mystifications. Il avait dû, pour me donner une fausse alerte, revêtir la peau de bête qui avait failli le tuer après l'avoir nettoyée. Puis, par jeu, il était monté sur le pont dans cet accoutrement pour prendre son quart. La tête et la peau de l'ours l'avaient empêché de voir que je le mettais en joue. J'en tombai malade et restai couché plusieurs jours, obsédé par l'idée que la main du destin était sur moi. Quand je me relevai, le malheureux Maitland reposait sous un grand monticule de glace, pareil à une bosse de chameau. Vers la fin de janvier, nous avions dérivé jusqu'au 81e degré de latitude nord. C'est alors que Clark, en présence de Wilson, me demanda si je voulais remplacer ce pauvre Maitland et être le quatrième homme pour le départ de Mars. Quand je répondis que j'acceptais, David Wilson cracha par terre de dégoût. Une minute plus tard, il secoua la tête en disant « Ah, ce pauvre Maitland !» Je lui aurais sauté à la gorge et je l'aurais étranglé, mais je me contins. Il ne restait plus qu'un mois à peine avant la course finale, et tout le monde se mit au travail avec acharnement. Il fallait prendre la mesure des chiens pour leur fabriquer des harnais et des bottes en peau de phoque, réviser les traîneaux et les kayaks, calculer le poids des chargements pour les réduire au minimum. Mais il était dit que nous ne devions pas réussir cette année-là. Vers le 20 février, la glace commença à s'amonceler, soumettant le navire à une terrible pression, et le vacarme était tel que nous étions obligés de mettre nos mains en porte-voix pour nous parler à l'oreille. Tout ce continent de glace se brisait, éclatait, crépitait de tous côtés, comme pris de convulsions cosmiques. Nous nous attendions à tout moment à voir le Boréal voler en éclats. Nous dûmes rassembler les provisions et mettre les traîneaux, les kayaks, les chiens et tout le matériel en état de pouvoir quitter précipitamment le bateau. Cela dura 5 jours. À la fin de février, une tempête se leva du nord et nous fit dériver vers le sud jusqu'à 79 degrés 40 minutes de latitude. Naturellement, Clark abandonna toute idée d'atteindre le pôle au cours de l'été. Peu après, nous fîmes une triste découverte. Notre provision de mousse à renne était à peu près épuisée. Egan, notre troisième officier, reçut un blâme, mais cela n'arrangeait rien. Le fait était là. On proposa à Clark de tuer un ou deux rennes. Il refusa obstinément. Ils devaient tous mourir au début de l'été. Nous recommençâmes à dériver vers le nord. Vers la mi-février, Le soleil se leva au-dessus de l'horizon comme dans un mirage. Nous vîmes voler des pétrels de l'Arctique et des oiseaux des neiges. C'était le printemps. Notre avance se poursuivit durant l'été à travers la banquise par des trois passages. Quand le dernier des rennes mourut, mon cœur se serra. Quand les chiens tuèrent deux de leurs compagnons et qu'un ours terrassa un troisième, je compris ce qui allait arriver. Clark annonça qu'il ne pouvait emmener avec lui que deux compagnons. Une fois de plus, mon regard croisa celui de Wilson et son mauvais sourire. De nouveau, nous prîmes nos quartiers d'hiver. Décembre ramena sa tristesse et ses ténèbres dans notre univers sans soleil, d'autant plus lugubre que nous manquions souvent d'électricité quand notre éolienne s'arrêtait de fonctionner, faute de vent. Vraiment, il faut en avoir fait l'expérience pour savoir à quel point il est déprimant de vivre dans la nuit de l'Arctique, où l'âme devient aussi sombre que le monde qui l'entoure, et l'homme sent parfois sa raison l'abandonner. C'est ainsi que le 19 décembre, Lamburn, le mécanicien, plongea son couteau dans le bras de Cartwright, notre vieil harponneur. 3 jours avant Noël, un ours s'approcha du bateau, puis s'en alla. Mew, Wilson, moi-même et Meredith, un de nos matelots, courûmes à sa poursuite, mais nous le perdîmes de vue après une longue chasse. Nous le cherchâmes chacun de notre côté. Il faisait très sombre. Au bout d'une heure, fatigué et découragé, j'allais regagner le navire lorsque je remarquai sur ma gauche l'ombre d'un ours qui s'esquivait. Au même moment, je vis un homme, impossible de savoir qui c'était, qui courait sur ma droite, pareil à un fantôme égaré. Je criai « Le voilà, venez, de ce côté !» L'homme me rejoignit aussitôt, mais dès qu'il me reconnut, il s'arrêta pile, et je ne sais quel démon l'inspira soudain, car il dit « Non merci, Jefferson, près de vous, ma vie est en danger. » C'était Wilson. Sur le coup, je cessai de penser à l'ours. Je me figeai et le regardai fixement. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Wilson ? Vous allez me l'expliquer sur le champ. » « Je dis ce que je dis, » fit-il en me toisant des pieds à la tête. « Seul avec vous, ma vie est en danger. Il en a été de même pour ce malheureux Maitland et pour ce pauvre Peters. Vous êtes assurément une bête malfaisante. » La rage me monta au cœur. Mon esprit était aussi sombre que ce sinistre Arctique. Insinueriez-vous que je veux vous écarter de mon chemin et prendre votre place dans l'expédition au pôle? Est-ce vraiment cela que vous pensez? Exactement, Jefferson. Vous êtes une bête malfaisante, je vous le dis. Dans ce cas, je vais vous tuer, Wilson, aussi sûr que Dieu existe. Mais auparavant, j'aimerais savoir une chose. Qui vous a dit que j'ai tué Peters? C'est votre bien-aimé qui l'a tué, avec votre complicité. Je vous ai entendu, mon vieux, dans votre sommeil de brute, raconter toute l'histoire. J'en étais d'ailleurs convaincu, mais je n'avais pas de preuves. Sacre Dieu, je serais bougrement heureux de vous envoyer une balle dans le cœur, Jefferson. Vous voulez me pousser à bout, hurlai-je, les yeux injectés de sang. Vous allez me le payer. Attention à vous. J'épaulai mon fusil, le visai au cœur, et j'allais appuyer sur la détente quand il leva la main gauche. « Arrêtez, dit-il, arrêtez !» C'était l'homme le plus flegmatique que j'ai jamais rencontré. Il n'y a pas de potence sur le Boréal, mais Clark en élèverait volontiers une pour vous. Moi aussi je veux vous tuer, parce qu'il n'y a pas de cour d'assises ici, et que ce sera une bonne action pour mon pays, mais pas ici, pas maintenant. Écoutez-moi, ne tirez pas. Nous nous rencontrerons plus tard, quand aucun de nous n'aura l'avantage, et que nous pourrons en finir une bonne fois. J'abaissai mon arme, cela valait mieux. Je savais que Wilson était le meilleur fusil du bateau et que je ne le valais pas, mais tant pis s'il me tuait. Quel pays sinistre et inhumain! C'est le règne des ténèbres et de la folie. 20 heures plus tard, nous nous rencontrâmes derrière un gros monticule en forme de sel, à quelques 6 miles du Boréal. Nous n'étions pas partis en même temps pour ne pas éveiller l'attention. Chacun de nous avait emporté sa lanterne. Wilson avait creusé une tombe dans la glace, réservant sur le bord un tas de glace pilée et de neige pour la recouvrir. Nous prîmes position de chaque côté de cette tombe, à 50 pas l'un de l'autre. Nous avions déposé nos lanternes à nos pieds. Même dans ces conditions, nous n'étions que des ombres fantomatiques. L'atmosphère était macabre. Je conserve au fond de l'âme le souvenir d'un décor abstrait, d'une lune glaciale, d'un scintillement infini. Nous étions loin de tout par une température de 54 degrés au-dessous de zéro. Aussi avions-nous nos coupe-vents par-dessus nos anoraks et des bandes épaisses à l'intérieur de nos bottes lapones. Le monde ressemblait à une morgue, hantée par la folie du désespoir. Nos pauvres âmes étaient pareilles à lui, remplies de pensées funestes. Entre nous, il y avait une tombe ouverte. Elle allait recevoir son corps ou le mien. J'entendis Wilson crier « Êtes-vous prêt, Jefferson ?»« D'accord, Wilson, » criai-je à mon tour. « Alors allons-y !» Il fit feu. Sans aucun doute, cet homme était pressé de me tuer. Sa balle passa à côté de moi, mais cela n'avait rien d'étonnant, car nous n'étions que des ombres l'un pour l'autre. Je fis feu peut-être 5 secondes après lui, mais pendant ces 5 secondes, mon adversaire m'apparut distinctement environné d'une clarté couleur lilas. Un globe de feu arctique avait traversé le ciel en répandant une splendeur sulfureuse sur le paysage enneigé. Avant que l'éclat intense de cette lumière momentanée ait disparu, je vis Wilson se courber en deux et tomber. Je l'enterrai, lui et sa lanterne, au plus profond de la glace.